Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer la première table ronde. Avant de commencer, j'invite nos amis de première table ronde, donc Saad Saloum, à monter. Donc, Saad Saloum, Omar Mohamed, Saja Muzahem, بسمة كودماني
عمر الشهير التقينا
مروان اولو اي سميرة وبايدي بايد مدامز ومسيو depuis 30 ans le Moyen-Orient traverse différentes périodes de violence et beaucoup de changements géopolitiques et stratégiques voire des métamorphoses d'une violence qui s'étend de manière inquiétante. Le Moyen-Orient est aujourd'hui une des régions les plus instables au monde. Guerre civile, sectarisme, tensions, instabilité politique. Cette situation a préparé un terrain favorable pour la naissance de Daesh en 2014. Qui a fait des milliers de victimes et jusqu'à 6 millions de déplacés internes. Un an et demi après la défaite de l'État islamique en Irak, le pays continue de souffrir de violences, de conflits et de niveaux de corruption qui dépassent toute imagination. Il continue de manquer de services de base tels que l'eau potable, l'électricité, des soins, etc. Ces difficultés quotidiennes qui persistent ont provoqué des révoltes importantes et de violentes dans le sud d'Irak, et notamment dans la ville de Basra, depuis l'année 2018. L'exaspération et le désespoir de la population sont immenses en réalité. L'Irak est aujourd'hui à reconstruire après des destructions immenses causées par Daesh et la guerre de libération du pays de son emprise. Notre objectif dans cette première table ronde intitulée acteurs et victimes, et de diagnostiquer et d'analyser les phénomènes de violence au Moyen-Orient, d'essayer de comprendre et de mettre en relief la réalité de cette violence à travers des témoignages d'hommes et des femmes victimes de cette violence, mais aussi acteurs capables de donner des signes d'espoir. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord d'accueillir dans cette table ronde 6 intervenants qui viennent du Moyen-Orient meurtri. Le premier intervenant qu'on a dans le programme, c'est à ma droite, Monsieur Saad Saloum, qui vient d'Irak, de Bagdad, et il est prof de sciences politiques et à l'université de Bagdad, et j'ai l'honneur de présenter aussi comme co-fondateur du Conseil irakien pour le dialogue interreligieux qu'on a tous les deux avec Seyd Jawad Al-Khoui, on a fondé en 2012. Donc je suis très content de l'accueillir ici. Donc je vous donne la parole, Monsieur Saad Saloum.
Merci beaucoup à mon père. Je suis très heureux de participer à cette réunion et surtout 2 ans après la visite du groupe d'intellectuels français en 2017. Mais également, donc ceci correspond au 16e année de l'invasion américaine d'Irak que nous vivons jusqu'à ce jour, dont nous vivons jusqu'à ce jour, les répercussions. Nous cherchons, en tout cas, nous cherchons à instaurer un État démocratique en Irak où le vivre ensemble est l'un des éléments majeurs. Je chercherai à parler donc lentement afin que vous puissiez tous profiter de la traduction. Je voudrais plus parler des victimes que des acteurs. J'ai donc fait une étude en 2017 sur les acteurs principaux de la violence en Irak. Nous avons devant nous trois défis magistraux qui demandent justement d'instaurer, de faire en sorte de fabriquer, si je puis dire, des politiques à long terme. Et ceci ne sera jamais possible sans l'appui de la communauté internationale, de l'Europe et en particulier de la France. Le premier défi, c'est justement l'absence de la population de toute confiance en ses dirigeants. Le deuxième défi, c'est justement de mettre fin à cette ignorance, et justement à vouloir, à ceux qui veulent justement ignorer l'autre par tous les moyens. Nous cherchons par nos tentatives à tracer la voie, si je puis dire, pour relever ces défis tous ensemble. Il est vrai que l'Irak a été libéré de Daesh, mais à ce jour, il reste à faire beaucoup, beaucoup de choses afin justement de rétablir la confiance après cette période néfaste de Daesh. Je pense que ceci devrait se faire sur deux pistes. Tout d'abord, rétablir la confiance entre les différentes composantes de la société irakienne et, deuxièmement, rétablir la confiance entre le citoyen et le pouvoir. Les questions de la réconciliation devraient commencer à se baser sur la justice donnée aux victimes. Ceci peut prendre plusieurs symboles. Par exemple, ceux qui ont quitté la région de Sinjar n'y sont pas revenus, malgré justement le départ de Daesh. Ceci peut se faire de différentes manières et ne pourrait se faire si vraiment, vraiment, vraiment les acteurs de cette violence ne sont pas traduits en justice, malheureusement. Malheureusement, il faudrait toujours se garder présent à l'esprit cette phrase « pas de réconciliation sans justice ». À ce jour, malheureusement, la constitution irakienne, ou plutôt les lois irakiennes, ne reconnaissent pas, ou en tout cas, n'ont pas justement ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité ou ne traduit pas devant la justice sous l'accusation de crimes contre l'humanité. Et malheureusement, à ce jour, nous ne voyons pas des acteurs justement derrière les barreaux, dans les prisons. Ce que l'on peut faire, par exemple, en l'absence de justice, c'est, par exemple, les mouvements sociaux qui peuvent aider à rétablir la confiance de bas en haut. Mais ceci ne pourrait se faire sans une volonté politique réelle, sans une volonté politique réelle. La semaine dernière, nous avons visité l'Alech auprès d'une délégation d'hommes de religion, d'académiciens, de professeurs d'université, de plusieurs universités irakiennes. Et nous avons pu vraiment voir de nos propres yeux à quel point de telles rencontres pourraient aider. C'est un symbole parmi d'autres qui pourrait auprès d'autres initiatives à rétablir la confiance. Et en 2017, J'étais responsable et organisateur de quelques 37 réunions à Mossoul entre les différentes parties justement concernées par Mossoul et afin d'organiser le retour de ceux qui ont quitté la ville. Nous avons lancé plusieurs recommandations à l'intention du gouvernement irakien en précisant que ceci demanderait les efforts communs, de joindre les efforts communs. Il faudrait tout d'abord commencer par combattre le discours de la haine. Nous avons donc mis en place une initiative pour combattre ce discours de haine après avoir mené une étude pendant une année tout entière à cet effet. Permettez-moi de donner donc quelques résultats de cette étude. Le citoyen irakien donc reçoit en moyenne tous les jours quelque 37 discours de haine par jour. Chaque citoyen irakien dont les acteurs sont les hommes de religion à 43%, les politiques à 42%. Durant cette étude, il y a eu également le référendum pour l'indépendance du Kurdistan.
Les discours de haine qui étaient au départ des discours religieux et confessionnels sont devenus nationalistes. Et nous avons reçu à partir de cette date 76 lettres de haine par jour. Le centre recense 800 personnes sur l'Irak. Nous recevons tous les jours des rapports qui suscitent beaucoup d'intentions quant aux différents discours de haine qui sont transmis. Et nous sommes à la veille de la publication de notre premier rapport. Mais nous nous posons une question. Qu'en sera-t-il si nous publions une liste noire des personnes derrière ce discours de haine, qui sont essentiellement les membres de l'élite politique et religieuse des premières et deuxièmes lignes? Est-ce que ce sera une punition symbolique de ce discours de haine et sans texte de loi? Est-ce qu'un tel recensement peut être utile? Le pape a annulé sa visite à l'Irak alors que la date avait été fixée. Il s'est rendu aux Émirats arabes unis à la place de venir en Irak. Il ne s'est pas rendu ni en Syrie ni au Liban, il est allé aux Émirats. Une des raisons de l'annulation de la visite, ce sont les discours de haine émis par le moufti Al-Diyar d'Irak et le président des biens chiites en Irak. Le pape ne voulait pas rendre la situation des chrétiens irakiens plus complexe qu'elle ne l'était. Ce que je veux dire par tout cela, qu'il faut véritablement mettre fin de manière définitive au discours de haine. Ça doit être le fait du gouvernement. Et nous espérons voir un effort international se concrétiser pour faire pression là-dessus. Et le pire, c'est qu'il y a aujourd'hui des minorités qui sont concernées. Nous voyons des discours de haine contre les chrétiens qui habitent dans la plaine de Ninive. Je pense donc que faire face à ces discours de haine est une nécessité absolue. Dernier point, Monsieur le prêtre me prie de me presser. Il y a la question des stéréotypes. Et j'ai écrit un livre qui parle de 600 stéréotypes sur les Irakiens. C'est un livre qui est basé sur cette idée très simple. Quand vous stigmatisez, vous distinguez. Quand vous distinguez, vous encouragez au génocide. C'est ce qui s'est passé à Sinjar. Et dans ce livre, je me suis inspirée sur un livre publié en 1926 en Égypte sur les Yazidis et le génocide de 1914. de 2014, pardon. Les experts ont pensé que pour lutter contre tout cela, il fallait créer un centre de diversité culturelle. Et nous avons commencé à rédiger les premiers programmes pour comprendre les religions qui existent en Irak, les chrétiens, les yazidites, les mandaïtes et les baïs. Ces initiatives dont je vous ai parlé sont importantes. Mais dans quelle mesure est-ce que la communauté internationale et l'Union européenne s'intéressent à ces questions, et le gouvernement français en particulier? Avec ce sentiment de devoir adopter des politiques de très court terme, si nous voulons véritablement être équitables à l'égard des victimes et faire face à la violence, nous avons besoin d'adopter des politiques de long terme pour rétablir la confiance, afin de lutter contre la haine et le développement de cette haine dans la culture. Je crois qu'il faut attirer votre attention tout particulièrement sur le rôle politique. Il faut travailler sur la volonté politique. Le conflit de Sinjar a besoin d'un accord politique. Le jugement des auteurs du génocide a aussi besoin d'un effort politique. Il n'y a pas de volonté politique internationale, malheureusement, en tout cas pas unifiée, et pas de volonté politique interne non plus. Nous espérons donc qu'il y aura coordination entre les États français et allemands dans ce domaine pour lutter contre cet individualisme trumpiste des États-Unis. On voit que les Allemands deviennent de plus en plus influents que les Américains en Irak, mais cela ne réussira pas. Et nous espérons que cela permette d'isoler les politiques de Trump. Et notre collègue Salam al-Kawakibi, après la décision prise par le gouvernement américain de juger les auteurs du génocide en Syrie, eh bien, il faut penser aux gens qui ont été tués dans le Sinjar, à Ninive et dans certaines régions syriennes. Nous avons besoin d'un rôle français plus fort dans ce domaine. Il faut mettre en place une politique européenne qui défende les victimes et qui empêche la violence.
Merci Saad Salloum pour cette présentation. Je pense qu'on a beaucoup de questions, mais on va poser nos questions à la fin, tout à la fin. Je suis heureux de présenter le deuxième intervenant à ma gauche, Monsieur Omar Mohamed, et on l'appelle en Irak, on l'appelle Omar Afendi. Donc j'aime bien lui donner cet Afendi, ça veut dire à Moussoul, c'est un titre pour dire celui qui est intellectuel, quelqu'un qui a beaucoup de...
Oui. Et bourgeois.
Bourgeois aussi. donc Omar Afendi, c'est un historien fondateur de Mosul Aïn, donc Aïn Mosul ou Mosul Aïn, et Yale University, donc le programme Yale University. Il est donc lui-même, il vient de Mosul, il a vécu lui-même cette période sombre de l'histoire d'Irak, période de Daesh. Donc, on va avoir vraiment un témoignage, ce que j'attends de lui aussi, un témoignage de quelqu'un de Mosul, qui vient de Mosul, comment il a vécu, comment ils ont surmonté cette tragédie.
Merci.
Merci beaucoup, mon père. Je regardais le titre de la séance, Acteurs et victimes, Et j'ai commencé à essayer de définir la victime du point de vue d'une personne née durant la guerre Iran-Irak et ayant grandi à l'ombre de la guerre américaine et l'invasion américaine, d'abord la guerre du Koweït et puis l'invasion de l'Irak. Et puis, après l'adolescence, j'ai connu la guerre civile en Irak en 2007. Après cela, l'arrivée de Daesh à Mossoul en 2014, puis la guerre qui a mené à la destruction de la ville de Mossoul. Il est difficile de présenter une définition de la victime. Et la victime elle-même a du mal à présenter cette définition. Ayant vécu à Mossoul sous l'ère de Daesh, j'ai documenté ces événements, je les ai transmis au monde et j'ai pu peut-être voir les choses sous un angle quelque peu différent. J'ai constaté que ce qui concerne les victimes à Mossoul n'est pas simplement lié à ce qui se passe au sein de la ville ou au sein du pays, mais il y avait un rôle international quant aux événements de l'Irak qui avaient une incidence sur la vie de la victime. Dans les études, on accuse toujours la violence religieuse en Irak. Or, moi, je ne savais pas que mon enseignant était chrétien, je ne l'ai su qu'après 2003. Mon enseignant à l'école, je ne savais pas qu'il était chrétien, je ne l'ai appris qu'après 2003. J'ai appris qu'il était chrétien suite au discours entendu dans le pays. La religion n'était pas le premier élément de reconnaissance identitaire en Irak. Ma mère est musulmane, mais elle a été baptisée à l'église car elle vivait avec un chrétien. À Mossoul, le chrétien, le juif, le yézidi vivaient ensemble, ils travaillaient ensemble. Nous ne connaissions pas ces détails liés à la religion. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais ils n'étaient pas les moyens de se présenter. Nous nous présentions en disant « Je suis citoyen, je respecte l'autre, je me respecte et je respecte l'autre ». Mais cette distinction religieuse est arrivée après 2003 en Irak, due à des interventions internationales. Qu'est-ce qui a provoqué cette défaillance en Irak? On se concentre aujourd'hui sur la victime. On dit que la victime était auteur de violences. Les victimes ne respectent pas les religions des autres. Les victimes veulent la violente, ont rédigé des lettres de haine, comme l'a dit M. Saad Salom. Mais nous recevons des lettres de haine tous les jours par le moyen des médias, par les des parties internationales, les différentes parties qui interviennent sur la scène irakienne. Plus d'une fois, j'ai rencontré des responsables de l'Union européenne et de pays européens. Une des expressions que j'ai Une des expressions douloureuses que j'ai entendues à plusieurs reprises était la suivante. Ils m'ont dit « Vos souffrances ne sont pas l'une de nos priorités. Nous sommes intéressés par d'autres affaires. » En tant que victime, nous avons commencé à regarder la manière dont la communauté internationale et les médias internationaux s'intéressaient à nos peines. Quand on était à Mossoul et que Daesh tuait plus de 20 personnes, par exemple, l'information était publiée, mais on ne voyait pas beaucoup d'intérêt derrière ces éléments d'information. On s'intéressait à des individus sur la scène internationale qui intéressaient plus que les 20 tués. En 2016, lors des opérations de récupération de la ville de Mossoul, en un jour, plus de 300 civils ont été tués. Mais les médias n'ont pas accueilli cette nouvelle de manière appropriée. Le même jour ou le lendemain, dans le cadre de mon suivi des événements de Mossoul, et vous trouverez peut-être que c'est drôle. J'ai trouvé un lion et un ours au jardin zoologique de Mossoul. Et tout le monde voulait aider le loup et le lion. Une organisation anglaise est arrivée en dépit des dangers à Mossoul et a voulu aider les animaux, mais l'homme, lui, était moins important. Je trouve donc qu'il est difficile d'écouter même les victimes elles-mêmes, parce que c'est une situation qui continue. La ville de Mossoul continue de souffrir parce que la moitié a été détruite. Le monde s'est intéressé aux 35 000 terroristes étrangers qui sont venus de France, d'Allemagne, d'Angleterre et d'autres pays, même des États-Unis et d'Asie. Quand ils sont rentrés en Irak et en Syrie et qu'ils ont commencé à tuer les civils, on a regardé les terroristes. Et aujourd'hui, ces pays refusent de récupérer leurs criminels qui ont tué des civils en Irak. Ils refusent de récupérer leurs citoyens qui ont participé aux crimes en Irak. Et quand vous posez la question sur ce sujet, on vous dit qu'ils ont commis des crimes hors du territoire français ou britannique. Donc c'est de ça dont je veux vous parler. Quand on veut définir la victime, il faut arrêter d'accuser la victime, car on ne supporte plus ces accusations en Irak. Hier, plus de 26 victimes innocentes, des femmes, des enfants, des hommes, se sont noyées à bord d'un navire alors qu'ils essayaient de vivre un jour heureux. Et ces morts ont lieu tous les jours, mais personne n'en parle. C'est pour ça qu'il faut essayer de sortir de cette souffrance en Irak. Et pour sortir de la souffrance, il faut que la communauté internationale redéfinisse sa relation avec ces sociétés, en arrêtant de parler de cette violence religieuse et en redéfinissant la violence du terrorisme. J'ai beaucoup parlé de ces situations dans plus d'un lieu, mais le problème demeure le même. Les définitions et les termes utilisés sont élastiques. On utilise un mot dans un endroit parce qu'il convient à telle société ou tel pays. On parle de terrorisme international, on parle de terrorisme des musulmans, et quand il s'agit de la suprématie blanche, on dit c'est une personne qui a des problèmes mentaux. On ne parle plus de terrorisme. Il faut revoir la définition du terrorisme et voir comment la France et la Grande-Bretagne ont agi en Irak. Il y a plus d'un siècle, il faut reconnaître ses erreurs du passé. Il faut être plus honnête lorsque l'on parle de la situation. Merci de votre attention. Merci beaucoup.
Cette présentation très intéressante, qui exprime vraiment aujourd'hui la triste réalité de cette région-là. Nous allons directement, je donne la parole à Saja Muzaham Salem, qui est aussi qui témoigne de cette réalité de Mossoul. Elle nous vient de Mossoul et en tant que femme vivante, elle a vécu la période de Daesh à Mossoul. Elle va nous témoigner de ce qu'elle a vécu durant ces 2 ans et demi d'occupation de Daesh à cette ville de Mossoul. À vous la parole.
Merci. Je suis d'une des personnes qui a survécu à l'occupation de Daesh à Mossoul. Après l'entrée de Daesh, ma vie a changé, comme a changé la vie de tous les habitants de Mossoul, de Ninive et de toutes les terres occupées par Daesh. Nous avons abandonné nos études, nous avons oublié nos rêves et nous avons vécu. Dans l'inconnu, comme si nous avions été condamnés à une prison à vie ou condamnés à mort. Les nouvelles lois contre la liberté individuelle ont été imposées. C'est une ville qui a vécu une situation de conflit. C'est un sentiment que bon nombre de personnes à Mossoul et dans les autres zones occupées par Daesh ont vécu. Peur de l'avenir, impossible de défendre la ville, impossible de défendre les amis qui ont quitté la ville. Et la vision de l'autre, qui nous considérait comme étant des personnes qui soutenaient Daesh, était impossible à vivre. Les zones résidentielles ont été bombardées. Daesh utilisait les zones résidentielles pour s'installer et l'aviation bombardait ces zones. Et moi, j'avais extrêmement peur. La pire des choses, c'est d'entendre une fusée être propulsée par notre quartier, car on savait que quelque chose allait nous retomber sur la tête. Nous étions craintifs et heureux, craintifs que ça nous tombe dessus et heureux quand ça tombait ailleurs. Après un an et demi, j'ai fui la ville avec ma mère. Les autres membres de la famille sont restés à Mossoul. C'était une des décisions les plus difficiles. Nous avons fui de manière illégale. Nous avons rencontré de nombreuses difficultés. Nous aurions pu être attrapés par Daesh, bombardés par l'aviation ou survivre. Et j'étais très heureuse de cette décision. J'avais décidé de quitter la ville. Et si je devais mourir, eh bien c'est moi qui avais décidé. Personne n'avait décidé de me tuer. Personne ne m'avait exécuté sans que je commette un crime. Et nous avons réussi. J'ai fui la ville de Mossoul. J'ai poursuivi mes études de droit. Et à partir de l'université, j'ai commencé à organiser les activités dans le domaine social et pour le dialogue. Nous étions dans la région de Kharkouk. Et nous étions une zone où il y avait des sunnites, des chiites et des chrétiens. Les gens nous disaient, est-ce que vos relations sont bonnes entre vous? Et nous avons créé cette association pour prouver que nous nous entendions bien. J'ai commencé à travailler avec les organisations de la société civile à Mossoul. Et depuis un an et demi, nous développons des programmes, pour l'esprit de la ville de Mossoul, pour renforcer la société, pour aider les gens à guérir de ces problèmes mentaux suite aux événements qu'ils ont vécu. Nous avons des groupes de volontaires jeunes, nous soutenons les organisations locales, je travaille beaucoup avec les jeunes et j'ai pu constater deux choses importantes. D'abord, l'incidence des événements sur la ville de Mossoul. D'abord, il y a des problèmes très négatifs. Les gens vivent toujours dans cette obsession du passé, ne peuvent pas dépasser ce cauchemar qu'ils ont vécu. Il n'y a pas de moyen de les traiter. Le gouvernement n'est pas intéressé par ces questions. Deuxièmement, nous avons eu des actions positives. Il y a de nouveaux mouvements de jeunes que Mossoul n'a pas connus par le passé, qui essaie de laisser une empreinte positive sur la société par des activités culturelles, artistiques. Les jeunes veulent d'abord donner une image positive de la ville de Mossoul, qui est une ville civile, qui aime la paix, ouverte aux autres. Nous voulons supprimer ces stéréotypes développés lors de la période de Daesh. Deuxièmement, les habitants de Mossoul doivent participer à un effort commun pour sortir de cette violence, de ces souffrances qu'ils ont connues. Les femmes et les enfants, eh bien, les femmes et les enfants sont ceux qui ont le plus souffert, d'après moi, des événements de Daesh et de la violence imposée par Daesh sur la ville de Mossoul. Le nombre de cas de divorce s'est accru de manière massive, car il y a eu de très nombreux mariages qui ont eu lieu lors de la période Daesh. Aujourd'hui, on voit que bon nombre de femmes divorcent. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents, qui ne sont pas reconnus. On a aussi une difficulté à faire participer les femmes aux activités de la société civile, car les familles sont refermées, les femmes ne sortent pas de la maison. C'est parce que les femmes ont passé 3 ans enfermées dans leur domicile et la société a décidé que les femmes ne doivent pas sortir. Or, il doit y avoir un mouvement des femmes pour une plus grande participation de la femme à la société, une participation active. Le 8 mars, on célèbre la femme dans le monde et nous avons organisé une caravane de 40 femmes, de 40 véhicules où les femmes étaient dans les voitures pour traverser la ville de part et d'autre pour montrer que les femmes peuvent participer à la vie. Et compte tenu des destructions, la société est devenue plus violente. C'est pour ça que nous avons organisé des activités dans les écoles, à gauche comme à droite, des programmes de sensibilisation pour que les gens comprennent qu'ils ne sont pas séparés. Nous avons lancé cette expérience dans 5 écoles. Nous mettons dans une pièce des jeux. Certains sont des armes, d'autres sont des ballons, des poupées et autres jeux positifs. Nous avions des groupes de 5 enfants. Nous leur demandions de choisir des jeux. Ils nous ont dit qu'ils ont choisi les armes. Ceux qui ont choisi les armes, on leur a dit pourquoi choisir les armes. Ils m'ont dit j'ai perdu mon père, je veux défendre ma ville. Et pour parvenir à une vie commune, il faut construire la confiance. D'abord, la confiance de l'individu en lui-même. Les gens qui ont été sous le joug de Daesh ont perdu la confiance en eux. Ils doivent d'abord retrouver la confiance en eux pour retrouver la confiance à l'égard des autres. Mais il faut reconstruire l'individu au sein de la société irakienne aujourd'hui. C'est le plus grand besoin. Merci.
Témoignage très fort. Franchement, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Cette souffrance d'une femme qui a vécu ce drame sous l'emprise d'une telle régime sauvage. Je reste toujours, donc je suis pas le programme que vous avez, je reste toujours en Irak et donc je donne la parole à monsieur Marwan Olo qui est un avocat. Pardon ? Et c'est un avocat qui vient de Karakoch, le banlieue de Mossoul, près de Mossoul. Et il nous présente tout ce travail comme il va nous présenter surtout ce qu'il a vécu comme chrétien, comme communauté chrétienne, ce qu'ils ont vécu comme difficultés durant l'occupation d'Aash, leur village. À vous la parole.
Sabah al-khair, Sayyidat al-Hadour, Sada.
Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole. On sait que l'être humain peut vivre même à aveugle ou amputé d'une jambe ou d'un bras, mais il ne peut pas vivre sans histoire et donc j'aimerais bien appeler notre réunion la réunion de l'espoir, la lueur d'espoir pour l'Irak. Ce sera la lueur d'espoir pour l'Irak. Parce que notre réunion va nous donner un nouvel espoir. Non, il y a un problème de micro. Les techniciens travaillent sur les micros. Chers amis, j'ai le plaisir de partager avec vous mon expérience douloureuse, cette expérience de violence que j'ai vécu avec tous mes compatriotes dans cette région d'Irak. Ce qui se passait dans la plaine de Ninive était atroce. Tant les Français ont toujours été les premiers à nous soutenir moralement et matériellement. Les Français ont toujours été les premiers à nous aider quand nous avons été déplacés, par exemple. Je voudrais remercier tout Français qui a essayé de nous aider. La plupart des minorités irakiennes se trouvent dans la plaine de Ninive, dans le département de Ninive, au nord-ouest de Mossoul. Là, il y avait Amdania, Chikan et Tel Kaf. Ceux qui parlent la langue syriaque sont concentrés dans la zone qui s'appelle Karkouche. Là, on trouve le plus grand rassemblement chrétien en Irak. La plaine de Ninive est l'une des régions qui a beaucoup souffert. Donc les chrétiens et les minorités en général ont beaucoup souffert sous le règne de Daesh. Le 10 juin 2014, quand Daesh a contrôlé la ville, tous les chrétiens sont partis, ils ont pris la fuite, et c'était la première fois que on n'a pas pu entendre les cloches carillonner à Mossoul. Plus tard, en 2014, Daesh a donné le choix aux chrétiens entre se convertir à l'islam ou se faire tuer. Ensuite, cette décision a été modifiée la même année, le 17 juillet. Là, on a menacé les chrétiens de se convertir ou bien de partir de leur village. Il y a eu deux périodes d'influence de la part de Daesh sur cette zone. La première a eu lieu pendant le mouvement de déplacement. C'est une interférence parce qu'il y a un enregistrement qui a lieu dans une salle voisine. La violence de l'organisation Daesh se caractérise par deux périodes. La première période, c'est celle qui a connu le déplacement, la fuite. Pendant cette période, il y a eu un impact. L'impact était très important. Là, c'était une question de vie ou de mort. Et plus tard, Daesh a libéré la région, mais nous avons toujours des craintes. Nos craintes subsistent. Donc, la violence a eu un impact énorme sur les chrétiens. Leurs zones sont désormais vides, car ces chrétiens sont partis à l'étranger. Beaucoup de ces personnes déplacées ont perdu leur identité, et des dizaines de milliers de familles sont allées s'installer dans les pays voisins. Après la libération de cette région, le choc était encore plus grand, car là, il a fallu faire face à une nouvelle violence, des maisons piégées, des maisons incendiées. les maisons endommagées étaient au nombre de plus de 13 000 unités. Dans une seule zone, Baghdada, il y avait 6 000 maisons détruites. Une autre zone chrétienne, Bardella, là, il y avait 1 700 maisons endommagées. Et à Tel Eskof, 1108 maisons. À Tel Kef, un millier de maisons. À Bahzane, 310 maisons. À Bakofa, 108 maisons détruites. Ainsi de suite. Donc, le grand nombre de maisons détruites était comme un choc énorme pour les citoyens qui sont retournés dans leurs terres et leurs villages. Donc là, les séquelles sont énormes. On a été encouragé par le gouvernement à réintégrer nos villages, mais sans obtenir la moindre garantie, de protection. Et je voudrais vous rappeler que actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties, mais ne peuvent pas le faire parce que leurs maisons sont endommagées. Le rôle de l'Église a été primordial dans la reconstruction dans la zone de Ninive. À titre d'exemple, l'Église, dans la zone de Baghdada, a fait reconstruire 2200 maisons endommagées. Une partie de ces maisons était incendiée. Et la reconstruction entreprise par l'Église représente 50% de la totalité des maisons qui étaient endommagées. Mais on n'a pas pu reconstruire les maisons complètement détruites à cause du manque de soutien matériel. L'Église a essayé aussi de reconstruire, de restaurer, de réparer des maisons dont les propriétaires sont à l'étranger pour les encourager à revenir. Donc tous ces villages chrétiens ont été largement détruits, dévastés, mais malgré cela, on n'entend aucune voix pour défendre ces chrétiens, surtout dans les médias occidentaux et dans les milieux politiques occidentaux. Donc nous voudrions, à travers cette rencontre, attirer l'attention de la communauté internationale sur la tragédie, le drame qui subsiste dans notre pays. Nous sommes en train de lutter, nous continuons de lutter pour préserver et conserver la terre de nos ancêtres. J'ai quelques simples recommandations si le président me le permet, mais apparemment le temps qui m'est imparti est fini.
Témoigner sur la souffrance d'une communauté, la communauté chrétienne, mais en fait aussi toutes les autres communautés qui ont souffert pendant cette catastrophe de Daesh qu'on a vécu dans ce pays. Nous allons changer l'univers. Maintenant, on va aller vers la Syrie. Bien sûr, la souffrance, c'est la même, mais je pense que chaque réalité a sa particularité. Donc, je donne la parole d'abord à Mme Basma Kodmani, directrice de l'initiative arabe de réforme, Mubadarat al-Islah al-Arabi. À vous la parole.
Merci, je vais parler français pour le public en m'excusant auprès de nos amis irakiens. Donc voilà, tout le monde est équipé s'il y a besoin. D'accord.
J'aurais voulu parler en français, mais comme le public majoritaire est français, je préfère m'adresser à mon public en français.
Je crois que nous pouvons Nous pouvons dire que nous avons certainement en Syrie certaines régions qui ont connu l'horreur, l'enfer que représente l'invasion de villes et de régions par le mouvement de Daesh. Je pense que nous avons surtout besoin de réfléchir sur à qui incombe la responsabilité de l'arrivée de ces mouvements, de ce type de mouvement, dans différentes régions d'Irak et de Syrie. Car Daesh est un groupe que l'on peut, qui s'apparente à des bêtes sauvages. Si l'on lâche, si on autorise les loups à entrer dans la ville, ce ne sont pas les loups que l'on va blâmer. Ce sont des loups, ce sont des barbares. Alors que faut-il, qui faut-il blâmer? Et je crois que c'est là qu'il faut porter la réflexion. Autour, d'abord, de la pratique et la banalisation du crime et de la dispense du respect de la vie humaine dans toute notre région et en particulier en Irak et en Syrie. Nous avons aujourd'hui, pour la Syrie, un processus dit de négociation. Celui-ci est au point mort. Il n'y a pas eu pour l'instant aucune négociation. Il n'y a eu que des solutions militaires sur le terrain qui sont pratiquées par un régime dictatorial dont les crimes commencent à être documentés par les systèmes de justice, les systèmes judiciaires de certains pays. Nous sommes enfermés depuis 8 ans, et puis bien avant ça, malheureusement, la Syrie comme l'Irak a connu des massacres qui ont précédé, pour nous, 2011, précédé le soulèvement de 2011. Et cette impunité est le fondement même de ces régimes et a envahi notre culture de manière tragique et de manière, je l'espère, réversible, mais réellement très profonde. Lorsque je vois dans les informations la visite en Syrie chez le président syrien du président soudanais Omar al-Bashir, qui est condamné depuis plus d'une décennie maintenant, une décennie et demie, par la Cour pénale internationale comme ayant commis des crimes contre l'humanité, étant responsable de crimes contre l'humanité, alors le message est clair. L'impunité est annoncée comme continuant et comme restant le fondement de la société syrienne. Et voilà, je crois, le drame auquel nous devons surtout nous attacher. Il ne suffit pas de dire il n'y aura pas de paix sans justice. Il y a réellement le besoin de comprendre que les principes fondateurs de la société sont à redéfinir, que l'organisation de la société, je ne vais pas parler de, on peut parler de démocratie bien sûr, puisque nous souhaitons une société démocratique, mais dans nos pays, vu la diversité magnifique que nous avons, vu cette richesse extraordinaire que nous avons, la démocratie, c'est d'abord le respect des minorités, des communautés et de cette diversité. Lorsqu'un régime politique les manipule, nous ne pouvons pas dire ce que j'ai entendu tout à l'heure. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire « je ne savais même pas quelle était la religion de mon professeur, ça n'était pas important ». C'est vrai, en Syrie comme en Irak, ce n'était pas important. Nous ne posions pas cette question. La tolérance était là. Seulement, elle a été détruite très largement par cette manipulation des pouvoirs dictatoriaux. Et aujourd'hui, la refondation de quelque chose de nouveau qui est basé sur les valeurs traditionnelles de nos sociétés de tolérance ne se fera pas naturellement par référence à notre passé. Elle doit se faire par une politique très déterminée, par l'instauration, bien sûr, de principes dans la Constitution, mais aussi de lois, la création d'institutions qui protègent et qui appliquent ces lois, la mise en place d'une politique culturelle qui veille à cela. Tout cela a été dit magnifiquement par nos amis irakiens et je veux me faire l'écho de ce que j'ai entendu. La sensibilisation de la société à notre rôle, parce que la responsabilité, malheureusement, retombe sur la société. Les gouvernants, ayant fait ce qu'ils ont fait, ayant manipulé de manière criminelle notre diversité, alors c'est à la société de porter cette responsabilité. Elle incombe aujourd'hui à la société. Et la société est bien sûr impuissante, elle est entre les mains d'influences étrangères, de groupes armés sur le terrain, tout ce qu'on voudra. Il n'empêche que c'est bien la responsabilité et la conscience peut-être des élites qui viennent, qui participent autour de cette table à notre discussion pour dire voilà les instances de dialogue. Voilà les institutions pour lutter contre la discrimination de tout genre, en commençant par l'égalité entre les hommes et les femmes et en continuant par le respect de la diversité religieuse et ethnique. C'est cette vigilance que nous devons absolument développer et instaurer dans nos sociétés. Je vais prendre un exemple qui va peut-être choquer. Le seul modèle de vigilance extrême que je connais, c'est celui des lois et de la vigilance des sociétés occidentales contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, il y a zéro tolérance pour l'antisémitisme dans les sociétés occidentales. Parfois, nous en étonnons parce que nous disons « ce n'est que pour la protection des Juifs, où est le respect aussi, ou plutôt la vigilance pour lutter contre l'islamophobie qui est montante dans les sociétés occidentales, nous le voyons. Mais je dirais, prenons exemple sur ce type de comportement vis-à-vis d'un passé pour dire plus jamais. Et ce plus jamais, c'est à la société de l'organiser aujourd'hui. Je ne vois aucun pouvoir politique et je dirais que les groupes qui prennent le pouvoir, qu'ils soient en Irak, ceux qui arrivent au pouvoir, ceux en Syrie qui sont dans l'opposition, sont conscients, mais pas suffisamment conscients de l'importance de commencer par cet aspect-là pour refonder les bases d'un contrat social. Avant même de parler de comment, quel sera le mode de scrutin et quelle sera l'organisation de nos instances démocratiques, etc. C'est là que nous devons mettre tout notre effort, parce que tout est venu de là. Telle a été l'arme qu'ont utilisée les dictatures, et c'est celle-ci que nous devons retourner contre la dictature. Merci.
Merci beaucoup. Madame Kodmani, pour cette présentation, et je donne la parole à la dernière intervenante, Samira Moubayad. Samira Moubayad, scientifique et chercheuse en éco-anthropologie, vice-présidente de l'Association syrien chrétien pour la paix et cofondatrice de plusieurs groupes politiques et l'Association Renaissance des femmes syriennes. À vous la parole.
Merci. Je vous remercie tout d'abord les organisateurs du colloque de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole devant vous aujourd'hui pour parler de la Syrie et plus particulièrement des Syriens chrétiens. Je vais continuer mon intervention en arabe, puisque le temps ne permet pas de... Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc,
j'ai choisi comme titre pour mon intervention les Syriens chrétiens face à la violence, ces chrétiens qui ont choisi de partir. J'ai choisi ce titre après avoir découvert que les chrétiens syriens en Syrie représentent actuellement 2% de la totalité de la population syrienne, alors que ces chrétiens représentaient 6% de la population syrienne. Donc, il y a un effondrement des taux de chrétiens. Et ce départ n'a pas toujours été obligatoire. Il a été volontaire. Moi, je voudrais défendre la diversité culturelle syrienne. Il ne s'agit pas là d'un accessoire ou d'un sujet dont on chante les louanges. Cet élément est très important dans la société syrienne parce que grâce à la présence chrétienne, on peut faire face à la violence et à l'extrémisme religieux. Donc, toute société qui connaît cette diversité est plus apte à faire face et à lutter contre l'extrémisme. Pour vous parler de l'attitude adoptée par les chrétiens, j'ai choisi de vous parler de certaines régions. On ne peut pas généraliser quand on veut parler de la Syrie et des régions syriennes parce que les régions sont contrôlées par diverses forces. Je vais commencer par les zones contrôlées par le régime qui prétend défendre les chrétiens alors qu'en réalité, il l'exploitait, l'utilisait comme outil au service de sa propagande et pour se maintenir au pouvoir. Donc, cette utilisation des chrétiens a mené à une escalade communautaire. Et donc, les chrétiens en ont payé le prix et parfois le régime a collaboré avec les extrémistes pour pousser les chrétiens à partir. Et à titre d'exemple, je mentionnerai le bombardement violent qui avait touché à la route les zones chrétiennes Baptouma, Kassa et d'autres banlieues habitées par des chrétiens, pas à n'importe quel moment de la journée, au moment où les enfants sortaient des écoles, ce qui a entraîné une peur énorme de la part des chrétiens pour leurs enfants et ainsi, ils ont décidé ainsi de partir. Il n'y avait aucun gain stratégique pour les factions islamiques qui ont bombardé les chrétiens dans cette région. Et les chrétiens se sont demandé pourquoi étaient-ils visés alors qu'ils ne menaçaient en rien les factions islamiques à Rota. Mais il y avait une collusion entre les factions islamiques et le régime et ceci a été découvert dans d'autres régions. C'était plus évident dans d'autres régions, en particulier à Maaloula, où le régime a réduit sa présence militaire dans cette région à majorité chrétienne, ce qui a permis à Jabhat al-Nusra d'entrer dans cette région, de détruire les églises, d'enlever des sœurs et perpétrer d'autres actes terroristes. Ceci a traumatisé les chrétiens et les incité à partir. Et là, on se demande pourquoi le régime a-t-il réduit sa présence militaire de la périphérie de cette zone, autorisant ainsi al-Nusra à y pénétrer. On en découvrira plus sur la collusion entre le régime et les factions islamiques pour déplacer les chrétiens, pour utiliser les chrétiens comme outils. Toutes ces actions ont eu pour rôle d'une haine accrue de la part des musulmans vis-à-vis des chrétiens, parce que ainsi, les musulmans ont commencé à considérer les chrétiens comme étant les alliés du régime, alors que ce n'était pas le cas. Les chrétiens ont toujours été, depuis le début de la guerre, un outil entre les mains du régime. Le discours de l'opposition n'était pas moins haineux vis-à-vis des chrétiens. Là, le discours était extrémiste et non seulement le discours, mais le comportement également à Idlib. Les chrétiens, dont le nombre ne dépasse pas 1000 personnes, donc ces chrétiens vivent sous la menace, ils sont humiliés, ils n'ont pas le droit de pratiquer leur rite religieux et on a confisqué les biens des chrétiens qui sont partis et qui avaient fait confiance à des musulmans syriens pour prendre soin de leurs biens, mais Hayat Tahrir al-Sham a tenu à confisquer les biens des chrétiens qui sont partis. Donc, plus la diversité est visée, plus la violence et l'intolérance vont sévir. Je vais, avant de conclure, vous parler de l'avenir, l'espoir des chrétiens de retourner en Syrie. Ceci est lié au rôle du citoyen et la façon dont on va les traiter. Le meilleur serait de les traiter à égalité avec les Syriens de confession musulmane. L'idéal serait une laïcité adoptée par le régime pour garantir la diversité et traiter tous les citoyens dans le pays de façon égale et équitable.
Merci beaucoup, Madame Mobayad, pour cette présentation. Je remercie beaucoup les 6 intervenants. Maintenant, je dois donner de temps pour les questions. Je vois que dans le programme, c'est jusqu'à 10h30, mais je vais jouer le rôle d'un oriental, donc je vais négocier un quart d'heure de plus. Comme ça, on va prendre un quart d'heure de la deuxième table ronde. Et donc, on a 3 quarts d'heure pour poser des questions. Donc, on va tourner le micro. Et chaque question, elle ne doit pas dépasser maximum 1 minute et demie au maximum 2 minutes, pas plus. Pas plus. Et comme ça, je donne après à chaque intervenant de répondre en 2 minutes pour conclure. Donc, on va rassembler toutes les questions. Donc, je demande aux intervenants d'écrire les questions qui les, donc, sont questions posées à eux pour pouvoir répondre. Voilà. Donc, comment ? Ah, et c'est possible s'il y a des intervenants, ils ont des questions entre eux. C'est possible, bien sûr. Ils peuvent poser aussi les questions en tant que. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a.
Y a-t-il des questions, tout d'abord, Touridoun, que vous voulez, pardon, poser entre vous? Auriez-vous des questions? Disons, je pose la question aux intervenants. Ont-ils des questions à se poser les uns aux autres?
Ok. Ils donnent la parole à la salle et puis après, ils peuvent aussi réagir, bien sûr. Ok. On laisse la parole au public. Oui.
Il y a Frah. Là,
la dame, oui.
Merci beaucoup à tous les intervenants et merci à tous les participants. J'ai une question à Omar Afandi. Vous avez dit au tout début de votre allocution que vous êtes un historien et vous êtes également parmi les cofondateurs de Ayn al-Mousel. Est-ce que c'est bien ce média social? Alors, ce serait bien que vous nous décriviez brièvement comment votre média, comment votre site a contribué justement à la communication entre les composantes de la ville de Mossoul. Merci.
Juste pour demander tout à l'heure à Maître Oulou de bien nous préciser ses recommandations puisqu'il n'a pas eu le temps de les exprimer. Merci.
Très bien.
Oui.
Le prophète Isaïe, cité par le colonel Le Grier, a écrit il y a longtemps « La paix est le fruit de la justice ». Alors dans le pays du code d'Amourabi, est-ce que la justice, l'espoir, la fin de l'humanité ne doivent pas-elles venir de la mise au tribunal des responsables des mensonges et de la guerre de 2003 et aussi de l'occupation de parties de la Syrie et de la Palestine arabe de 1947.
Merci. Maglon, il y a juste à côté.
Non, merci.
Maglon.
Oui, merci pour vos interventions. Moi, je voulais rebondir sur la question de justice. Je suis convaincue, comme vous, que la justice est nécessaire à la réconciliation, parce qu'on ne peut pas se faire réconcilier des gens sans mettre sur la table ce qui n'allait pas. Mais je me demande d'où elle peut venir. Je ne vois pas les gouvernements syriens, irakiens, prêts à dire qui était à la cause des violences. Et les institutions internationales, les gouvernements internationaux, ben, sont dans des États souverains, en fait, où c'est très difficile d'amener des dirigeants dans des pays qui n'ont pas signé le traité de Rome devant un tribunal international. Donc qui aura la possibilité politique, les institutions, le courage de prendre ce risque, de dire bon, maintenant on va parler de qui a fait des erreurs. Je vous remercie.
Encore, on va prendre une ou deux questions. Monseigneur Stinger.
Je voudrais adresser ma question à Madame Moubayed. Vous avez dit en quelque sorte que les chrétiens syriens ont été instrumentalisés par le régime. Mais j'allais dire, pourquoi se sont-ils laissés instrumentaliser? Ils devaient bien voir les manœuvres qu'il y avait derrière. Et, enfin, en tous les cas, cette situation a créé des équivoques et des ambiguïtés dont on a beaucoup de mal à sortir quand on essaye de porter une analyse et aider de l'extérieur.
Il y a une question, Madame Hoffner.
Oui, je voulais prolonger une question qui a été évoquée pendant une des interventions. Au fond, c'est si cette justice internationale ne peut pas passer, même si normalement elle est indispensable, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est possible venant de la société civile pour la réconciliation?
Encore une dernière question. Père George.
Donc, Monsieur Omar a dit que ce n'est pas conciliation sans justice. Donc, il y a conflit entre justice en Irak, en Syrie, contre en Europe. Comment on peut faire cette justice?
Très bien. Donc, je donne la parole d'abord à Monsieur Omar Afandi. Vous pouvez donc.
C'est Afrah, question.
Tout d'abord, Afra, vous avez posé une question. Je suis tout d'abord, oui, je suis historien. J'ai commencé mes études à l'université de Mossoul. Oui, c'est vrai, je me suis donc occupée de l'histoire de l'Irak à partir de 2003, à partir de l'invasion américaine. Mais également, j'ai commencé dès juin 2014, j'ai commencé justement à me pencher sur ce qui se passe à Mossoul. À l'époque, j'étais la seule source de ce qui se passait à Mossoul. L'autre source était Daesh, car Daesh poursuivait les journalistes, qu'ils soient locaux ou internationaux. Donc, les journalistes internationaux, même locaux, ne pouvaient pas justement rendre leurs témoignages au monde. Sauf le seul moyen qui était possible, c'était les médias sociaux, Facebook et autres. Donc pour nous, c'était le seul médium, Facebook, afin de pouvoir faire entendre notre voix. Et bien évidemment, Daesh également a utilisé ce médium, mais ce que Daesh rendait, c'était une image dévoyée qui ne rendait pas du tout la réalité qui se passait dans la ville. Et comme vous le savez également, c'est-à-dire qu'il y a une très grande vague d'accusations de la part des autres régions, des autres populations irakiennes contre Mossoul, contre la population de Mossoul comme étant justement des soldats de Daesh, si je puis dire, quelque part. Et il a été dit à cette époque que nous, les habitants de Mossoul, nous étions vraiment le meilleur médium, nous étions ceux qui faisaient, qui propageait la propagande Daesh. Vous voulez répondre à d'autres questions? Oui. Alors, quand vous avez donc parlé de 2003 et auparavant, en fait, en tant qu'historien, nous ne devons pas nous occuper que de 2003, des événements de 2003, mais bien avant, il faut remonter bien avant. Il faudrait remonter à un siècle, les interventions européennes, les interventions internationales. Disons-le, ces interventions étaient néfastes, quand même négatives. Ceci ne veut pas dire, soyons clairs, que les relations devraient être quand même un reflet négatif également de ces relations, bien au contraire, mais il faudrait quand même rétablir ces relations, que ce soit sur le plan commercial, scientifique ou entre les religions. Mais il faudrait quand même dire, il faudrait le rappeler, que ces interventions ont eu des répercussions très néfastes sur les populations locale, à commencer par les chrétiens ont souffert, beaucoup souffert dans la région des interventions étrangères et même celle du Vatican. Ceci a été quand même une source de plusieurs conflits. J'en cite ici le conflit, par exemple, entre les Chaldéens irakiens et d'autres composantes de la population irakienne. Mais ceci ne veut pas dire que je suis en train de dire que le conflit est entre les chrétiens et les musulmans. Bien au contraire, ces interventions étrangères ont eu des répercussions très, très néfastes sur toutes les composantes de la population irakienne ou même les autres populations de la région. Pareil pour la Palestine, vous l'aviez donc dit. Donc ce que je viens de dire s'applique également à la Palestine, comme il s'applique également à la Syrie, comme notre collègue vient de dire. Vient de tracer, de nous brosser une description de l'état, de la situation des chrétiens en Syrie. Pareil également pour les autres populations chrétiennes dans d'autres régions, dans d'autres pays de la région où la ségrégation était justement a été alimentée surtout par ces interventions. Moi, par exemple, en tant qu'Irakien, je suis obligée donc dans certaines situations de me présenter non pas en tant qu'Irakien, en tant que citoyen irakien, mais en tant que musulman ou de chrétien, comme me voit l'Américain ou le Britannique ou d'autres populations qui voudraient me voir comme ça. Merci, mon père. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la justice. Quelle est la relation de la justice, et le futur de l'Irak? Mais moi, je dirais même la relation entre la justice et l'avenir des relations internationales, du système international, si je puis dire. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que cette justice provienne ou soit instiguée par les régimes irakiens et syriens actuels? Peut-on attendre cela de la communauté internationale? Bon, bah, disons que le génocide, tout le monde disait plus jamais ça, plus jamais ça. Eh bien, écoutez, des génocides ont été quand même commis, ont eu lieu pendant la guerre froide, ont eu lieu bien après, que ce soit en Bosnie, que ce soit au Darfour, et après en Irak, à Sinjar, dans d'autres régions. Et écoutez, on peut même parler de génocide également dans d'autres lieux. La Libye a connu également des massacres. Nous en avons connu. Et donc, je vais donc me concentrer sur ce qui s'est passé chez nous en Irak. La responsabilité incombe à toutes les grandes puissances. Peut-on parler de responsabilité politique sur le plan international afin d'empêcher le génocide, afin d'empêcher le massacre? À quel point ceci peut-il rencontrer les intérêts des grandes puissances? Il faudrait se poser ces questions. Ces questions, nous les posons justement au travers de nos travaux et nous cherchons au travers de ces travaux à y répondre. Quand nous parlons de paix, quand nous parlons de réconciliation, pour nous, à la base de tout cela, il y a la justice. C'est ce que les yézidis veulent. Les yézidis vous disent à chaque fois que vous adressez à eux, eh bien, il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix sans justice. Ceci également me ramène à notre propre responsabilité, à la responsabilité des citoyens irakiens, à la responsabilité de la société civile irakienne. Écoutez, selon nos travaux actuels, et comme le régime irakien actuel, ou disons les lois irakiennes, ne poursuivent pas les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Mais ceci ne veut pas dire que nous restons les bras croisés. Au contraire, nous y travaillons tous les jours afin de traduire tous les criminels de régime précédent devant la justice, c'est-à-dire afin que tous les crimes commis en Irak contre les populations irakiennes soient traduits devant la justice, que ceci donc englobe les crimes de régime précédent, les crimes actuels et dans notre passé tout récent. Et je pense, de mon point de vue, qu'il est beaucoup plus efficace d'agir auprès des députés, des législateurs irakiens, avant justement d'aller faire, on va dire, lancer de grandes initiatives, etc. D'ailleurs, mon père ici présent sait très bien que la justice, en tout cas une partie de la justice que nous devons vis-à-vis des victimes, passe tout d'abord par justement le refus de ce discours de haine. Et ceci doit provenir des grandes composantes ou des trois grandes puissances de l'Irak. D'abord les grandes tribus, ensuite les communautés religieuses, c'est-à-dire sunnites et chiites, mais également le régime, les politiques. Alors, donc, écoutez, moi, j'ai commis 14 livres et dans ces livres-là, j'ai toujours prouvé par mes travaux que l'identité de l'Irak n'est pas une, mais diverse, elle est plurielle. Donc, à partir de là, si nous voulons quand même préserver l'Irak tel que nous le voulons, tel que nous le souhaitons, il faudrait préserver cette pluralité. Cette année, donc, je publierai un autre livre où je me concentre sur l'économie que j'appellerai l'économie religieuse également, qui fait partie, de mon point de vue, de cette pluralité. en 2018 un livre dont le titre est L'unité à travers la diversité. Oui, il faudrait reconnaître cette diversité. Il faut reconnaître la diversité ethnique, la diversité, toute la diversité que connaît, enfin, de la pluralité, la diversité des populations irakiennes, kurdes, disons également confessionnelles ou religieuses, chiites, sunnites, etc., et ethniques d'un autre côté. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître si nous voulons vraiment, vraiment aller vers, ou en tout cas faire un très grand pas vers la paix. Nous avons actuellement 800 bénévoles qui travaillent avec nous à travers toutes les régions irakiennes afin justement de détecter ces discours de haine, d'où qu'ils proviennent. Et nous cherchons justement à circonscrire ces discours, en tout cas leurs répercussions, avant que la grande déflagration n'ait lieu. Par exemple, actuellement, nous n'avons pas d'autre choix. Le seul choix qui est devant nous, c'est de travailler activement avec toutes les composantes, quelles qu'elles soient. Par exemple, actuellement, j'ai imaginé un peu que certains religieux musulmans étudient et vice-versa, étudient le monde chrétien par non seulement des chrétiens, mais des musulmans ou des yézidis aussi. Merci.
Merci, monsieur Salloum, pour cette réponse très, très intéressante. Donc, je donne maintenant la parole à monsieur Olo. Pour répondre.
Merci pour vos questions. J'avais dit que l'Église avait justement s'est attelée, avait commencé déjà l'opération la plus difficile, c'est-à-dire la reconstruction de ce qui a été détruit. Nous allons donc, je voudrais quand même dire que nous avons Père Georges Chahoula avec nous, qui fait partie justement de ces initiateurs de cette grande campagne de reconstruction. Tout d'abord, j'ai voulu également mettre l'accent sur la nécessité pour le gouvernement irakien de commencer la refondation du système scolaire, en tout cas des manuels scolaires, afin d'en exclure tout ce qui peut inciter à la haine, tous les discours de haine. C'est pourquoi nous demandons à la France de nous aider dans cette campagne, dans cette initiative, afin que les voix des minorités, toutes les minorités, soient entendues sur le plan international, afin que ces minorités puissent faire valoir leurs droits, ces droits qui ne leur sont pas reconnus, malgré que la Constitution irakienne leur reconnaît ces droits. Mais malgré cela, nous avons besoin justement d'œuvrer très activement. C'est pourquoi nous avons constitué ce comité afin d'œuvrer dans ce sens. Et nous appelons justement à constituer, un conseil. On peut l'appeler tout ce qu'on veut, un conseil de sages ou d'autres, qui sera quand même, qui s'attellera sur ce qu'il faut faire dans la plaine de Ninive, cette plaine, cette région qui justement souffre beaucoup, et afin que justement ce qui sera fait afin de refuser de combattre la haine et les discours véhiculant cette haine aient des répercussions dans toutes les autres parties irakiennes, et afin que nous puissions justement garantir que ces massacres, que ces appels à la haine ne recommencent pas, que nous ne reconnaissions plus jamais ça. Voilà. même si cela, justement, est inscrit dans le marbre de la Constitution, mais la situation est autre en réalité. Mais également aussi, nous demandons à ce que la communauté internationale s'intéresse au sort des minorités irakiennes, afin que nous ne soyons pas oubliés, que nous ne soyons pas, justement, relégués vraiment à la marge, à la toute petite marge. Et ceci, justement, faire en sorte pour que, justement, nos villages, nos régions ne soient pas également oubliés, mais qu'elles puissent quand même jouir d'une certaine indépendance sur le plan administratif. Et ceci pourrait également constituer en soi un pas vers l'espoir de jeter les ponts entre les communautés, entre les populations diverses, afin de contribuer justement à la refonte et à l'unité de ce peuple irakien, quelles que soient ses composantes. Et ceci, à nos yeux, doit passer nécessairement tout d'abord par la reconstruction, afin justement de rétablir, de reconstruire ce qui a été détruit, et pour permettre justement à ces minorités, à nos minorités, de revenir vivre dans leur village et leur ville détruite. Merci beaucoup.
Propositions, toutes ces idées à débattre, bien sûr. Je donne la parole à... donc à notre ami Saja qui vient de Mossoul, mais avant de lui donner la parole, j'ai une petite question pour elle. On sait très bien que toutes les révolutions et tous les changements dans les sociétés viennent des philosophes et des femmes, en fait, dans l'histoire, si on regarde. Comment des femmes, vraiment, aujourd'hui, les femmes de Mossoul qui ont vécu cette tragédie, comment aujourd'hui ils peuvent refaire l'histoire, c'est-à-dire changer les choses et d'être vraiment des pionnières pour un changement dans la société irakienne.
Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même revenir à la question de la justice et de la paix. La justice est la base de la paix. Moi, personnellement, par exemple, quand j'ai reçu un choc, par exemple, qu'un proche, vis-à-vis de la tragédie d'un proche, la première chose que je cherche à faire, c'est justement de chercher à me venger de cette personne qui a causé cette tragédie ou cette souffrance. En fait, ce que nous cherchons à faire, bien loin du gouvernement, bien loin des lois, de la Constitution, c'est vrai, il faudrait faire quelque chose, mais ceci reste difficile actuellement. Ce que nous cherchons tout d'abord, c'est créer de l'empathie entre les différentes composantes d'une ville, d'une région, et à travers cette empathie, justement, faire en sorte que les gens puissent quand même reconnaître le choc, reconnaître la souffrance dont ils ont été l'objet, reconnaître qu'ils sont également des victimes. Là, je peux dire que les gens actuellement ont quelque part, on va dire, essayent actuellement de sortir de chez eux, de se mélanger aux autres. D'autres cherchent à prendre des initiatives collectives. J'ai parlé l'initiative du 8 mars. C'est une initiative lancée par des femmes à l'intérieur de la ville de Mossoul. Il est vrai, il y a plusieurs rassemblements ou plusieurs comités de femmes qui restent quand même assez timides, mais ils existent quand même.
Madame Koudmani et Madame Bayad, Monsieur Omar Afendi, il a demandé la parole.
Juste une brève intervention pour justement la paix internationale. Comment réaliser cette paix internationale? Ceci quand même revient à 90% de la manière, la façon de vivre d'une communauté. Par exemple, l'Europe qui a pris des initiatives dans le sens de, par exemple, peut, par exemple, les pays européens peuvent prendre l'initiative de constituer un tribunal international, à l'instar du tribunal de Nuremberg, pour traduire tous les terroristes, tous les criminels, où qu'ils soient dans le monde, qu'ils soient traduits devant ce tribunal. Mais qu'attendre donc de ces justices européennes, malheureusement, qui refusent de reprendre leurs propres terroristes? Je dirais même que, justement, ces points de divergence, ces points de contradiction ne militent pas pour la convergence. J'ai bien peur que cela ne se fasse. Au contraire, cela plaide, malheureusement, comme les choses sont actuellement, vers plus de divergence. Mais plaide également à laisser les minorités dans ces régions à leur propre sort, excusez-moi. Sachons que ces minorités sont partie intégrante de la société irakienne. La société irakienne est plurielle, elle est diverse. Elle n'est pas constituée d'une seule ethnie, d'une seule race. Au contraire, il faudrait que la communauté internationale prenne une décision courageuse, justement dans le sens que je viens de dire. Je vais continuer en arabe, dit Mme Koudmani. Tout d'abord, deux points. Le premier, c'est la responsabilité internationale vis-à-vis de la région du Moyen-Orient afin de créer justement, de créer, d'où inciter à la création d'un espace géographique qui va lui-même créer donc cette ou en tout cas les éléments nécessaires pour la création de cette justice. Je voudrais quand même rappeler ici que la région connaît quand même une occupation majeure, l'occupation israélienne de plusieurs territoires arabes. Hier, le président américain Trump a reconnu justement la souveraineté israélienne sur le Golan syrien. Quelle est donc la responsabilité des Nations Unies? Quelle est la responsabilité des pays démocratiques quand ils disent que c'est vraiment la politique du fait accompli, le fait accompli qui a été acquis par la violence? Eh bien, la violence peut devenir une légalité internationale. Ceci est très, très dangereux. Ceci pourrait justement alimenter d'autres violences, pourrait alimenter ce principe de la violence qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Cette violence qui va légaliser ces milices religieuses, comme celles que constitue l'Iran, ces milices religieuses qu'elle cherche justement, qu'elle a ancrées dans les pays de la région, qu'elle a envoyées en Syrie afin justement de soutenir le régime syrien contre sa propre population. Eh bien, c'est la même chose maintenant qui se produit pour le Golan syrien, où on va dire rien n'a été fait justement pour rendre ce Golan justement à la Syrie. Deuxièmement, certains intervenants ont parlé, se sont demandés sur comment instaurer la justice et quelle est la relation entre la justice et la paix sociale et la paix dans un pays. Bien sûr, ce sont des questions légales. Bien sûr qu'il faut quand même poursuivre tous ceux qui ont commis des crimes pour que ce soit le prélude à la réconciliation, car sans cela, point de réconciliation. Ça, c'est le principe de la justice transitoire. C'est-à-dire, là, il faut savoir, il faut définir qui doit traduire vers la justice. Mais il y a d'autres moyens également où on peut, qui peuvent constituer un prélude à la réconciliation. Ce sont des préludes que nous pouvons créer au niveau de la société civile. Donc, ce sont des outils différents qui peuvent justement être utilisés pendant cette période transitoire que nous appelons la justice transitoire. Mais ceci ne peut jamais commencer sans justement avant de nous atteler justement de nous prendre à la tête de ce gigantesque justement régime qui veut instaurer toutes sortes de et toutes formes de violence. Oui. Alors, ce que vous appelez la compétence universelle. Oui, bien évidemment, il y a eu justement des initiatives. Il n'est pas possible pour les citoyens syriens, par exemple, de pouvoir arriver à cette compétence internationale, à savoir arriver au Conseil de sécurité des Nations Unies, car sans éviter le veto russe. Qui va quand même soutenir le régime syrien. Il a été créé donc des outils tremplins, je dirais, pour pouvoir arriver à cette justice. Et pour cela, je dirais qu'il faudrait tout d'abord commencer par constituer les noyaux nécessaires de refonder nos systèmes judiciaires et juridiques. Je ne sais pas que faut-il faire en Irak, mais je dirais que, par exemple, en Syrie, afin que la justice syrienne puisse pouvoir justement changer les principes, changer également l'attitude des citoyens vis-à-vis de la justice, il faudrait quand même refonder cette justice. Merci.
Je donne la parole à Madame Bayer.
Merci. Alors, pour répondre à la question qui m'a été adressée concernant l'utilisation par le régime des chrétiens comme moyen d'action et comment peut-on changer les choses. Alors, tout d'abord, le gouvernement a voulu se rapprocher des gouvernements occidentaux pour montrer qu'il luttait contre le terrorisme. C'est pour ça qu'il a utilisé les chrétiens. Et le terrorisme est souvent repris comme flambeau d'action. Comme l'a dit Madame Basma dans son intervention, celui qui a libéré le grand nombre d'islamistes en 2011, islamistes qui sont devenus chefs de guerre, et le gouvernement, qu'est-ce qui aide al-Nusra? Qu'est-ce qui lui donne de l'électricité gratuitement alors que al-Nusra la revend aux citoyens? Nous devons nous poser la question, pourquoi est-ce que le régime profite du terrorisme et l'utilise à ses fins? Maintenant, pour ce qui est du recours aux chrétiens et à la diversité, je vais parler de trois points très importants, très rapidement. Tout d'abord, le terrorisme est défini comme tel par ceux qui luttent contre, mais il y a toute une série de milices terroristes iraniennes qui existent en Syrie, qui ne parlent pas arabe, qui ne peuvent pas s'adresser aux Syriens, qui se trouvent dans des zones à majorité chrétienne, notamment dans la vieille ville de Damas. Et il n'y a pas de contact entre les citoyens du pays et ces milices qui défendent l'État. Ils sont là pour défendre l'État, pas pour défendre les chrétiens. Troisième exemple que je vais citer, c'est celui de l'action contre tout opposant chrétien syrien. Ces opposants deviennent tout de suite des terroristes, sont emprisonnés pour de longues périodes, sont tués également par le régime. Encore un point pour montrer la véritable vision du régime quant à la coexistence, eh bien, ce sont ses contacts avec les partis qui ne lui rapportent aucun intérêt, comme les Kurdes, comme les Juifs et d'autres. Eh bien, ça montre bien que le régime est tendancieux et qu'il n'utilise les chrétiens que comme moyen pour parvenir à ses fins, pas comme soutien réel.
Merci beaucoup. Au nom de tous les organisateurs de colloques, notre colloque, je remercie infiniment les intervenants, tous les intervenants qui sont venus de loin, qui sont venus d'Irak et de Syrie. Il y a certains qui sont venus aussi de Syrie. Donc je remercie beaucoup les intervenants, je remercie beaucoup tous ceux qui ont posé des questions et qui ont participé à ce débat. Nous allons avoir une demi-heure de pause, donc, et après, à 11h, nous allons reprendre. Oui.
Je dirais une chose. Merci beaucoup pour ça.